Bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez Cinébrunch, votre magazine de cinéma qui s'assume, peu importe l'heure de la journée. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie de Louis Laramé et Mélina Lopez-Nadeau. Bonjour!
Bonjour!
Hey, hey, hey!
Vous savez, on dit souvent qu'au cinéma, les suites sont moins bonnes que l'original. Mais cette semaine, la suite d'un grand film nous est parvenue, Blade Runner 2049 avec Denis Villeneuve. Et on a tous les trois vu ce film-là. Et on vous en reparle dans notre table ronde dans une quarantaine de minutes. Et en attendant, quelques critiques de films à l'affiche. Louis, on pensait vraiment que tu allais aller voir La montagne entre nous. Et j'avais prévu de te lancer en joke en disant que tu avais vu Mon petit poney. Mais tu as vraiment vu Mon petit poney.
J'ai vraiment des positions idéologiques fortes contre les films d'amour et de survie mis ensemble. En partant, j'aime ça, les films de survie. Bref, j'ai été voir Mon petit poney.
Merveilleux. Mélina, toi, tu t'es assumée, tu as été voir un vrai film de montagne.
Oui, j'ai été voir Gabriel et la montagne.
On va en parler dans quelques minutes. Et évidemment, de mon côté, j'ai vu Victoria et Abdul, le film historique. Avec la reine Victoria. On révolutionne pas du tout le cinéma, mais c'est léger et agréable. À suivre. Beurrez vos toasts, sortez vos crotons et de la confiture parce que c'est Cinébrunch! Oui, je sais qu'on t'accuse souvent de n'aimer que les films de fusils, mais je sais qu'en fait, t'es un grand sensible et t'es allé voir Mon petit poney. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui t'a pris?
Ça, c'est une excellente question. On n'a pas encore réussi à trouver exactement la source de ce problème-là. J'étais arrivé au cinéma, il y avait La montagne entre nous, il y avait Mon petit poney. J'ai vu Idriss Elba qui regardait vers le sud et je me suis dit... Non, je refuse de faire ça, guys. Ce qui fait que je me suis commencé à aller voir Mon petit poney, le film, qui est un film d'animation qui était mené par tous des vétérans de l'ancienne guerre. Pour vous mettre un peu dans le bateau et vous rentrer dans le monde d'Equestria, Jim, j'aurais besoin que tu me mettes la preview, s'il te plaît.
Je suis la princesse Twilight Sparkle et voici mon royaume, Equestria. Un pays plein de magie. De musique. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh. Et le plus important, d'amitié. La vie est parfaite. Ouais. Franchement, qu'est-ce qui pourrait aller de travers?
On applaudit des quatre sabots, la commandante Tempest.
Et si nous commencions par une reddition complète et définitive?
Louis?
Moi, j'ai vu la bande-annonce et j'étais persuadé que je m'en allais voir un Christie de film médiéval où il allait avoir de la guerre, des explosions, des épées pis tout. Parce que...
T'as beaucoup d'imagination, hein?
Bon, qu'on se le tienne pour dire. rapidement, liste des personnages, on a la princesse Twilight Sparkle qui est apparemment le personnage principal de la série télé avec son groupe d'amis des Main Six. Donc, Rainbow Dash, Applejack, Pinkie Pie, Fluttershy, Rarity, accompagné de Spike, le dragon, qui est joué dans la version anglophone par Michael Peña Nieto, qui est un humoriste que j'aime beaucoup. On a également une participation spéciale de Sia, qui joue Colibri Sérénade, c'est pas des blagues, puis qui a fait la toune principale du film d'ailleurs.
Okay. Donc il y a des chansons puis tout ça, là, c'est un film pour enfants là.
C'est définitivement un film pour enfants. Là, je veux mettre quelque chose au clair avant d'aller trop loin. Oui. Il existe une sous-culture d'hommes, de jeunes adultes sur Internet qui aiment My Little Pony, Mon petit poney. Je ne fais pas partie de cette sous-culture. Je ne suis pas un brownie.
Tu pourrais t'assumer un peu, Louis?
Non, non. J'ai vraiment été là, plus en Paris que j'étais capable de toffer tout le film. Et oui, je suis resté jusqu'au générique de fin. Bref, ce sont les poneys d'Equestria qui organisent le premier festival de l'amitié. C'est chapeauté par Twilight Sparkle. Ça s'enligne pour être vraiment magnifique. Mais là, tout est jeté en désarroi quand la licorne à la corne brisée, Tempête, arrive à la tête d'une armée de créatures orages. Ça, c'est la description officielle. Non, non, ça, c'est la description officielle du film.
Ah. OK.
De créature orage. La princesse Celestia, qui est une autre licorne avec des cheveux célestes, les met en charge de trouver la reine des hippos.
Hippopotame.
Avant de se faire pétrifier par une roche magique. On aurait pu croire que c'était les hippopotames, mais non. Suite à la lecture d'un livre à Clutchtown, le groupe d'amis découvre qu'en réalité, il est question des hippogriffes. Mi-poney, mi-aigle.
Je pensais que c'était une invention de J.K. Rowling, moi, ça, les hippogriffes.
Non, c'est quand même assez vieux dans la mythologie.
Bon, je savais pas.
Non.
Mais là, attends un peu. Là, tu me parles de plein de créatures, des licornes, des faux hippopotames, mais y a-tu des poneys là-dedans?
Non, mais c'est ça. Les Main Six, là, Rainbow Dash, Applejack, Pinkie Pie, c'est séparé. C'est des poneys et des licornes. Il y a une licorne, cinq poneys, je crois. Il y en a une qui a des ailes, puis je comprends pas pourquoi.
OK.
Ah.
Il y a deux qui ont des ailes, deux qui ont des cornes. Il y en a juste une qui est Rainbow Dash, qui est Twilight Sparkle, qui a une corne et des ailes. Mais honnêtement, c'est pas ça l'important. Bref, Capper le chat, numéro de musique extraordinaire, arrive, les met en confiance. En réalité, il est là pour les vendre en esclavage, pour régler ses dettes. Rarity répare son jacket. Et par conséquent, il devient leur meilleur chum. Ils s'échappent. Ils se font capturer. Ils s'échappent sur un bateau volant UPS de livraison. Mais pas vraiment, parce qu'en réalité, c'est des anciens pirates kidnappés par le roi Tempête. Puis là, ils réussissent à les convaincre de redevenir à leur voix de pirate, autre numéro musical. Pendant que c'est en train de se passer, Rainbow Dash veut faire une démonstration d'un arc-en-ciel supersonique, révèle leur position à Tempête qui les poursuit à ce moment-là, s'échappe jusqu'à la montagne où seraient cachés les hippogriffes, trouve une fontaine, d'où une voix mélodique s'échappe, se font kidnapper par un vortex qui a une connaissance, les hippogriffes se sont transformés en poissons.
Wow.
Donc, plutôt que le traditionnel mi-poney, mi-aigle, on les couvre ici comme étant mi-poney, mi-chicken, si on peut bien comprendre, parce que tout ça a été fait pour s'échapper du maléfique roi Tempête. Bref, ils ont une pelle magique. Twilight Sparkle met en charge ses amis de distraire la princesse et la reine, essaye de voler la pelle, se fait pogner, se fait mettre dehors. Ses amis sont en beau maudit après elle, la laisse se débrouiller toute seule, elle se fait kidnapper par Tempête, se met de chum avec Tempête, revient à Equestria où toute la merde est encore pognée, où est-ce que les créatures orage ainsi que le roi orage sont présents et comme domine la place, on arrive comme le roi Tempête essaie de...
C'est donc bien compliqué, ça.
Il se passe beaucoup de choses.
Ça finit sur une chanson magnifique de Sia et vraiment énormément de poney. C'est...
Ah.
L'animation était extraordinaire. Je me suis même perdu un peu dans les articles Wikipédia d'explication de quel logiciel avait été utilisé. Ils n'ont pas utilisé Adobe Flash qui est utilisé dans l'animation. Ils ont utilisé Boomtoon qui est un autre logiciel. Bref, c'est vraiment de l'animation. En tant que personne qui ne connaît rien de l'univers des poneys d'Equestria, j'étais perdu. parce que c'est ça, c'est de ce que je comprends, puis de ce que j'ai lu sur Wikipédia, puis d'autres sites questionnables, c'est tous des personnages qui sont vraiment connus dans la série. Il y a quelques exceptions.
Okay.
Tempête a été créé pour ça, le roi Tempête a été créé pour ça, le roi Orage a été créé pour ça, mais pour le reste, c'est vraiment tous des personnages, des contextes connus. Et moi, j'étais absolument perdu. Là. Moi, je me posais des questions tout le long, mais qui sont ces gens? Pourquoi est-ce qu'ils se connaissent? Pourquoi est-ce que les noms anglais sont pas traduits en français? Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Toutes ces poneys-là ont des tatous sur la fesse. Je comprends rien.
Mais là, ça veut dire que quelqu'un, mettons un enfant ou peu importe, qui a pas vu la série, là...
N'allez pas voir ça.
Ça sert à rien qu'il voit le film.
Mais
là,
quelqu'un qui connaît ça... Honnêtement, l'histoire était pas si mauvaise que ça. Il y avait des trucs intéressants. L'animation était vraiment de toute beauté. Les chansons étaient même endurables. Je suis sûr que la version anglophone était meilleure parce que... Plus, je l'ai vu en français. C'est ça. Fait que d'après moi, c'est bien visible là, pour quelqu'un qui connaît la série. Fait que Louis score de 6 sur 10 parce que j'ai été obligé d'aller voir des logiciels d'animation et que je trouvais ça cute.
Merci, Louis. Et Mélina, tu as vu un film de montagne, Gabriel et la montagne.
Exactement. Donc, c'est un film brésilien. On est très loin du blockbuster américain. C'est réalisé par Felipe Barbosa et comme acteur, on a João Pedro Zappa et Caroline Abras. Donc, c'est basé sur une histoire vraie, celle de Gabriel Bachmann, qui est un étudiant en économie et qui prend un an pour voyager avant son doctorat et qui est retrouvé mort au pied d'une montagne. Donc, le film, c'est en quelque sorte un hommage à Gabriel parce que...
Parce que c'est une histoire vraie, c'est ça?
C'est ça, c'est basé sur une histoire vraie, voilà. Gabriel, c'était un ami d'enfance du réalisateur. Donc, pour lui, c'était un peu une façon de faire son deuil, de retrouver, de comprendre ce qui s'est passé. Donc, le film, il est en 5 langues. Il se passe parce qu'il se déroule principalement en Afrique. On a de l'anglais, du français, du portugais, mais aussi du swahili et du tchitchewa. Et on a des sous-titres pour comprendre tout ça. Donc, avant d'en dire plus, on va aller écouter la bande-annonce.
So when did you leave Brazil?
Almost 1 year now, man.
Sir, how are you traveling without money?
Unless the way you stay, you travel like a local.
I want to go in one day.
One day.
No guide, no gear, sandals.
I've done many mountains before.
Mais quelle musique, quelle trame sonore.
Oui, ça a l'air bon, la musique. Ouais.
Ouais, la musique est vraiment excellente. Ça l'ajoute vraiment quelque chose au film. Donc, pour le film, en fait, la scène d'ouverture, on commence sur un long plan séquence de 5 minutes qui est super beau, où on est au Malawi et deux habitants découvrent le corps de Gabriel. Et ensuite, on retourne 70 jours en arrière, donc les deux derniers mois de son voyage. On visite le Kenya, la Tanzanie, le Zambie et le Malawi. Et on voit, entre autres, les chutes Victoria, le Kilimanjaro, le lac Malawi. Donc, c'est très, très beau comme film. Il y a des super beaux paysages. Il y a aussi sa copine qui vient le rejoindre pour quelques semaines. Donc ça, c'est très touchant parce que dans sa dernière scène avec elle, on sait qu'ils se reverront pas. Mais pas eux. Eux, ils savent pas. Donc, c'est super
c'est
fort émotionnellement.
Parce qu'on sait qu'il meurt à la fin. Fait que c'est
exactement,
ça.
Voilà. Donc, le film, c'est en gros un gros flashback du voyage de Gabriel. Puis, Gabriel, c'est ça, c'était qui, Gabriel, en fait? Parce que c'est quelqu'un de vrai qui a vraiment existé. C'était un étudiant qui venait d'une famille aisée au Brésil. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est un ami de longue date du réalisateur du film. Et c'était un étudiant en économie. Donc, il avait fait ses études à l'université à Rio et il allait commencer un doctorat à UCLA. Il s'intéressait beaucoup au thème de la pauvreté. Et selon lui, la théorie était inutile pour comprendre.
Il fallait y aller en personne.
Exactement.
OK.
Donc, il voyageait vraiment comme une personne locale, c'est-à-dire au niveau de ses vêtements, de la nourriture, de l'hébergement. Il vivait chez le monde. Il savait que l'argent qu'il donnait, ça changeait vraiment des vies. Et aussi, il réagissait super fortement quand il se faisait traiter comme un touriste, parce que pour lui, c'était comme un peu insultant. C'était pas comme ça qu'il voulait voyager. Mais c'est quelqu'un qui avait une personnalité très optimiste, sympathique, mais il est aussi insistant et déterminé, puis c'est surtout ça qui va l'amener à terminer l'ascension de la montagne tout seul, parce qu'il va signer une décharge et son guide va rentrer chez lui, tu sais. Gabriel est mort d'hypothermie, en fait. Ils l'ont retrouvé après 17 jours avec tout son équipement, donc il y avait son appareil photo. Puis, ils se sont donc servis de ces photos-là pour comprendre ce qui s'est passé dans les derniers jours et pour bâtir aussi le scénario. Puis, le réalisateur, il a vraiment retrouvé les personnes que Gabriel avait rencontrées durant son voyage. Et c'est ces personnes-là qui jouent leur rôle dans le film. Donc, ça donne un peu des allures de documentaire au film parce que ces personnes-là, ils ont comme mis... Le réalisateur, il a mis de côté le scénario quand il a commencé à tourner. Puis, il a dit, on va vraiment recréer ce que vous avez vécu avec Gabriel. Donc, ça donne une touche par documentaire au film. C'est vraiment intéressant.
Ouais, c'est pas des acteurs, là. C'est des,
non, c'est des
locaux, là.
Exactement. Il y a même une personne qui avait de la misère à trouver. Puis là, le réalisateur raconte qu'une fois, il est sorti de son hôtel, puis il y a quelqu'un, un Nigérien, qui est venu mendier auprès de lui. Puis il a demandé, est-ce que tu connais Gabriel? Puis il a dit, oui, c'est un ami à moi. Puis là, il se rend compte que ce gars-là, c'est quelqu'un qui cherchait pour faire le film qu'il avait jamais réussi à trouver, tu sais. Puis il l'a trouvé comme ça.
Eh ben.
Donc, ça reste que c'est une fiction, mais ça a des allures vraiment documentaires. Je veux dire, on voit les mêmes personnes, les mêmes lieux, utilisent les mêmes vêtements.
Tu me racontes ça, puis, tu sais, j'entends, il voulait pas être reconnu comme un touriste, mais est-ce qu'il faisait autre chose que du tourisme, puis de s'acheter avec du linge? Je comprends mal qu'est-ce que ce dude-là était de spécial, autre un étudiant avec de l'argent qui se promenait dans des pays pauvres.
Ben, il voulait, c'est que lui, il allait commencer son doctorat en économie. Fait que son thème qui s'intéressait vraiment, c'était la pauvreté. Donc, il voulait vraiment la vivre pour la comprendre, pour ensuite retourner faire son doctorat. Parce que pour lui, étudier à Beverly Hills, la pauvreté, ça faisait pas tant de sens, comprends? Fait qu'il allait chercher un peu des outils pour ensuite faire son doctorat.
Fait qu'il se mélangeait au monde local, là-bas, aux pauvres, pour essayer de comprendre c'était quoi la pauvreté.
C'est ça. C'est probablement quelqu'un qui aurait fait des grandes choses, mais il est mort. Fait que, je veux dire, c'est ça aussi, là.
J'ai pas... Non, j'aime pas le... Je le trouve pas sympathique. Je trouve qu'il fait juste slum it up. Si tu me permets l'expression anglophone, là, il fait juste aller vivre avec des pauvres, avec tous ses privilèges, parce que quand il va retourner à Beverly Hills, il va avoir accès aux soins de santé.
Non, mais il retourne pas, il est mort.
Ouais, non, mais...
Mais ça, c'est quelque chose qui a été critiqué un peu sur le film. Sauf que quand on voit le film, c'est vraiment pas ça qui dégage. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment envie d'aider les gens. Tu comprends? Ça fait penser un peu au film sur Che Guevara, qu'on voit son voyage en motocyclette. C'est des gens que lui vient d'une famille aisée au Brésil, il s'en va là-bas. Ça le confronte aussi un peu à qu'est-ce qui est là, puis à qu'est-ce qu'il doit faire pour changer les choses aussi, pour comprendre. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a rien de pire que d'étudier la pauvreté dans un livre, tu comprends? Ça l'aide encore moins que d'aller là-bas.
Je comprends. Est-ce que c'est joli comme film?
C'est très, très beau. C'est super beau. Par exemple, l'équipe de tournage est montée au sommet du Kilimanjaro pour faire un plan. En fait, on s'entend, ils ont fait une randonnée, une marche de 18 heures pour
avec
tourner un plan.
Avec l'équipement puis tout, là?
Avec l'équipement puis tout. Puis, c'est recommandé de rester 10 minutes. Ils sont restés 40 minutes. Ils ont eu le temps de faire un plan. Ils voulaient en faire un deuxième. L'équipe, les guides leur ont interdit de rester pour faire un deuxième plan. Donc, ils ont utilisé toutes sortes de techniques pour s'assurer que le plan était vraiment parfait. Puis ça, c'est à plusieurs reprises, ils ont fait ça dans le film. C'est-à-dire, le temps pour se rendre à un lieu est quasiment plus long que le moment qu'ils ont pour filmer dans ce lieu-là.
Ben oui, j'imagine Kilimanjaro quand même.
Ouais, ça, 18 heures pour 40 minutes de tournage, c'est rough.
C'est ça, exactement.
Ouais. Faut que tu redescendes après.
Non, oui!
C'est ça. Mais c'est pour ça que c'est très intense comme film. Puis on le voit ça aussi. Puis la trame sonore aussi, elle vient ajouter à ça, tu sais. C'est sûr que c'est pas un personnage super sympa. C'est un personnage sympathique, il y a un côté un peu candide, optimiste, tout ça. Mais il y a un côté aussi, justement, là, comme tu dis...
Oui, ben c'est ma critique sur la conscience tourisme, je le ferai sur une autre plateforme, là, mais oui.
Oui, mais c'est ça. Mais lui, on voit que c'est vraiment pas ça son but, donc c'est super intéressant pour ça. Puis il dit à un moment donné, il dit, tu sais, je me rends compte qu'avec 40$, je peux payer une année d'études pour l'enfant... De la personne qui l'héberge. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans un hôtel puis de payer super cher, il va rester chez quelqu'un, il va lui donner de l'argent, mais il sait que cet argent-là va servir à payer, par exemple, un an de loyer ou plusieurs mois de nourriture. Donc, au lieu de donner son argent dans des hôtels, il va la donner vraiment à des familles qui sont vraiment dans le besoin. Puis en retour, il va vraiment connecter avec eux, il va recevoir des vêtements, il va vraiment avoir une échange beaucoup plus au niveau de la culture. C'est vraiment un film à voir, selon moi, là.
T'as quoi sur 10?
C'est vraiment dur à faire, en fait.
À ce point-là, là.
À ce point-là, parce que c'est pas représentatif du film, tu comprends? Parce que je peux pas le comparer avec un film américain, je peux pas le comparer avec un film français. C'est vraiment unique en son genre. Donc, Gabriel et la montagne, c'est un film que j'ai vraiment aimé beaucoup. Je vous le recommande fortement. C'est sûr que c'est difficilement accessible parce qu'on a des sous-titres tout le long, mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce film-là si vous êtes intéressé par ce genre de film-là. Donc, je donnerais facilement un 8 sur 10.
OK, merci, Milena.
Monsieur Karim, vous allez vous rendre en Angleterre.
Vous servirez la reine, mais en aucun cas vous ne devez regarder Sa Majesté.
De quoi peuvent-ils bien parler?
Qu'est-ce qu'une mangue?
La reine des fruits.
J'aimerais une mangue.
Elle ne pousse qu'en Inde.
Je suis impératrice des Indes. Qu'on m'en envoie.
Je croyais Sa Majesté mourante.
Eh bien, vous avez entendu la bande-annonce du film Victoria et Abdul, un film historique britannique réalisé par Stephen Frears. C'est avec Judi Dench, qui interprète la reine Victoria, et Ali Fazal dans le rôle d'Abdul. C'est basé sur des faits vécus. L'histoire en elle-même est assez simple. Ça se passe en 1887, vers la fin de la vie de la reine Victoria. Elle est aussi impératrice des Indes. Et pour le jubilé d'or de la reine, donc le 50e, il y a deux Indiens qui sont envoyés de l'Inde vers l'Angleterre pour lui porter une pièce d'or à son effigie. Elle se prend d'amitié avec l'un des deux Indiens, Abdul, qui va devenir son servant, éventuellement son professeur, parce qu'on apprend qu'Abdul n'est pas de religion hindoue, mais de religion musulmane. Et la reine lui demande de devenir de lui enseigner l'hindoustani, qui est une langue de l'Inde que l'Indien juge supérieure à l'hindi. La reine Victoria, qu'on dépeint comme blasée au début du film, se dit n'avoir jamais été aussi heureuse depuis sa rencontre avec Abdul. Malheureusement, l'entourage immédiat de la reine est un peu outré de son comportement, et c'est là que les problèmes commencent. On voit le côté très anglais, le monde des apparences, ce que le public va penser, de quelle manière il faut se déplacer, ne pas regarder la reine dans les yeux, etc. Le côté protocolaire, si on veut. Et on veut nous faire croire que la reine Victoria est une espèce de bourge gourmande et fière, mais dans ses actions, elle est plutôt sobre et compréhensive. D'ailleurs, on finit par la voir pleine d'ouverture d'esprit et combat le racisme au sein de son caucus et défend Abdul contre les attaques du palais royal. Mais il y a une chose qui m'a agacé, c'est que le film nous montre assez peu le clash culturel ou du moins hiérarchique entre Abdul et la reine. Je pense que le but de ce film-là, c'était un peu de faire ressortir ça. On montre beaucoup, on cogne sur le clou en disant que qu'il est différent, qu'il est de couleur, qu'il est indien, c'est un indien, voyons, ma reine, c'est un indien, bon, des trucs comme ça. Mais Abdul, de son côté, il a juste l'air un peu confus là, du changement de réalité dans lequel il vient d'arriver. Finalement, il va s'adapter extrêmement vite à sa situation. Chose intéressante sur cette histoire-là, c'est que cette relation entre Victoria et un Indien a été gardée secrète très longtemps. C'est basé sur des faits vécus. Et c'est ressorti des boules à mythes quand on a publié les mémoires d'Abdul dans les années 50. Donc, ça fait pas mal d'années après. Là. On est loin des années 1880, là. Et bon, c'est un film léger, pas beaucoup de sensations fortes, mais même qu'on aurait peut-être voulu en avoir un peu plus, tant qu'à romancer, j'aurais pas détesté qu'on les voit aller un petit peu plus loin dans le politiquement incorrect, mais ça marche quand même. Un humour un peu léger qui vient parfois défaire un peu la profondeur du film, mais chose certaine, c'est accessible à tout le monde. Dialogue, c'est pas du Shakespeare. Honnêtement, c'est pas un grand film, c'est pas non plus un bijou d'histoire, mais c'est un film cute, c'est léger, c'est agréable à voir. Je recommande totalement de le voir avec un 7.5 sur 10. Si vous avez envie d'un petit film léger, s'il fait beau et que vous voulez manger du popcorn et le digérer sans problème, allez-y. Mais si vous n'avez pas vu Blade Runner, allez voir Blade Runner. Louis, qu'est-ce qui se prépare sur les projecteurs dans les prochaines semaines, jours et autres?
Ben, des affaires le fun qui s'en viennent la semaine prochaine. On a entre autres Sur la lune de Nickel du réalisateur montréalais François Jacob. C'est un documentaire sur la ville russe de Norilsk. Qui est une municipalité bâtie par des prisonniers du Goulag où ils se minaient entre autres du nickel. Ça a l'air cute, j'ai pas eu trop d'informations sur François Jacob, je pense que c'est son premier long métrage qu'il va produire. On a également Le bonhomme de neige, version originale de Snowman. Ne ris pas. C'est un thriller policier britannique dirigé par Thomas Alfredson qui a fait entre autres Tinker Tailor, Soldier Spy. Une disparition survient lors de la première neige. Un enquêteur d'élite joué par Michael Fassbender essaie de faire le lien avec une ancienne enquête vieille de 10 ans sur un tueur en série qui serait de retour. Le trailer, la bande-annonce était excellente, puis il y a Rebecca Ferguson qui est l'autre lead avec Michael Fassbender. On a également Charlotte Gainsbourg, J.K. Simmons, Toby Jones et Val Kilmer qui vont être présents.
Ah oui, Val Kilmer.
Ouais, je pense qu'il a ressorti. Le rôle est toujours pas révélé. On sait pas qu'est-ce qu'il fait dans le film.
Ah, okay, ok.
C'est IMDb, mais une page blanche en ce moment. On a également Seul les Braves, Only the Brave, qui est un drame basé sur des faits vécus par la Granite Mountain Hotshots. Les Granite Mountain Hotshots, qui sont une équipe d'élite de pompiers. Puis ça raconte l'histoire où les événements autour du feu de Yarnell Hill en Arizona, où 19 membres de l'équipe sont décédés, ont perdu la vie. Ça a l'air d'être un vraiment beau documentaire, là. Ça a l'air d'être bien fait, mais ça a l'air aussi d'être très romantisé. On a entre autres Geoff Brawlins et Miles Teller, ainsi que mon favori Jeff Bridges qui joue dans ce film-là. Mais le film qui m'excite pour la semaine prochaine...
Bon, c'est quoi?
Oh, yeah! C'est un truc qui s'appelle Géotempête, version originale, Geostorm. Et là...
Ouais, on a vu la bande-annonce.
Attends, je sais pas si t'as... Moi, il y avait quelque chose qui m'a marqué dans la bande-annonce et ça ne s'invente pas, OK? Ils vont de la publicité autour du fait que c'est dirigé par le producteur d'Independence Day.
Ben...
c'est ça, un producteur, c'est celui qui met le cash. Le directeur, c'est celui qui met le temps. Là, c'est
on
ça.
On voit qu'il y a une inversion des rôles. Là.
Acteur principal, Gerard Butler. C'est Leonidas qui dirige ce film-là. Il y a, c'est aussi lui qui faisait la voix de Stoïc la Brute dans Comment dresser votre dragon. Un paquet de nobody à part de ça. C'est quand les satellites en charge de contrôle de température pètent. Il faut qu'il règle la question. Allez voir la bande-annonce. Ça vaut vraiment la peine.
C'est un peu comme Sharknado, la bande-annonce. Hein?
Ah non, ça a l'air mieux que ça. Et il y a une histoire de réalisation vraiment compliquée parce que c'est en production depuis 2014. C'était supposé sortir en 2015. Puis les distributeurs se sont pris en chicane et n'ont pas été capables de le faire. C'est pour ça que ça sort que seulement là, en 2017. Sorti en IMAX, allez voir.
Fait que je comprends que c'est ça que tu vas voir pour la semaine prochaine.
Ah, yeah.
Excellent. Merci, Louis. De retour à Cinébrunch, chers auditeurs, pour cette deuxième demi-heure de Cinébrunch, notre table ronde sur Blade Runner. Mais avant la course de patins, c'est le moment de notre petit jeu French Marie Gifle. J'adore ce jingle-là, c'est vraiment incroyable.
Je suis encore fâché contre la blague de patins et de course de patins.
Bref.
C'est des coureurs d'épée. Bref.
C'est pas possible. French Marie Gifle est un petit jeu dans lequel, pour un thème donné, chaque joueur doit, à tour de rôle, choisir entre trois éléments. Lequel il frenchera, on parle donc de plaisir immédiat. Lequel il mariera, on parle d'engagement à long terme et de confiance. Et finalement, lequel des trois il giflera, on parle donc de refus et de boycott. Cette semaine, entre ces trois acteurs, Tom Cruise, Harrison Ford et Christian Bégin, sélectionnés par Louis pour leur âge, Mélina, French Marie Gifle.
Attends, rapidement, explication. J'ai choisi trois acteurs-là parce que c'est trois acteurs middle-age qui font des rôles quand même similaires. C'était ça ma pensée derrière ça.
Mélina, French Marie Gifle.
Oui, donc, je gifle très certainement Christian Bégin parce que le problème d'infiltration... c'est
mais Curieux Bégin?
Non, juste comme le problème d'infiltration a tué Christian Curieux Bégin pour moi. Ensuite...
On n'est pas tous d'accord avec ça, mais...
Non, mais écoutez, hein. Mais
Donc oui, donc tu gifles Christian Bégin.
Je gifle Christian Bégin. Je french Tom Cruise et je l'oublie tout de suite après parce que je le trouve pas marquant dans l'histoire du cinéma. Et ensuite, je vois Louis qui me fait des gros yeux ici.
Louis ne se peut plus. Je pense que je vais laisser finir le bloc juste pour ça.
Arg!
et je marie clairement Harrison Ford parce que je trouve que c'est un très bon acteur. Il est ténébreux, il est beau, j'aime ses films. Voilà.
Malgré des performances décevantes dans le dernier Indiana Jones et c'était quoi l'autre qu'il a fait? C'est pas un bon acteur, cet homme-là.
Ouais, mais
bref.
Tom Cruise puis Christian Bégin non plus. Là.
Tom Cruise est un excellent acteur
Tom Cruise,
d'action.
Nez n'est pas aligné avec sa craque de dents. Ça le tue pour moi.
Tom
ça.
Cruise court dans un film comme nul autre ne court
Tom
dans un
Cruise
film.
Tom Cruise se blesse dans un film et n'a aucune marque.
Non, mais continuez la joute. Moi, je veux savoir qui va avoir, qui va
non,
avoir raison.
Là. Mais là, comme Tom Cruise a fait des films extraordinaires. On parle de séries complètes, de Mission Impossible. On parle de La Momie, bon, qui était vraiment
mais
décevant.
Tom Cruise est juste bizarre.
Là, je veux juste vérifier. C'est ça, il a fait Top Gun. Tu peux pas commencer à chialer contre comme
mais c'est pour ça que je le french. C'est pour ça que je french Tom Cruise. Et non pas Christian Bégin, c'est pour ça que celui que gifle, c'est Christian Bégin.
Ouais,
ouais, Louis, quand même, là. Tire pas sur le messager, là.
Puis tu sais, Tom Cruise, là, juste Scientologie, puis craque dedans, pas aligné avec le nez, puis on oublie ça pour moi.
Tu vois, Scientologie, pour moi, est un argument vraiment plus fort que craque dedans, ah ouais. Ou même...
Bon, c'est un peu superficiel, Mélina, t'as trop vu trop de films de filles.
C'est bizarre, un peu, là, et on s'entend.
Jim, French Marie
à mon tour, alors, voilà. Bon, écoutez, hein, d'entrée de jeu, je marie Harrison Ford parce que Star Wars, Indiana Jones,
voilà.
Blade Runner, justement. Il était beau quand il était jeune. Il a encore du charisme aujourd'hui. Il a fait peu de mauvais films, à part peut-être Star Wars à Christmas Special. Bref, je marie Harrison Ford. Là où ça se corse, c'est un peu comme Mélina. J'ai une grosse hésitation. J'ai un peu comme l'impression que c'était un piège que tu nous as fait, Louis, parce qu'en mettant Tom Cruise et Christian Bégin dans le même quiz, la gifle devient un problème. Donc... c'est le French qui me répugne le plus, je dirais. D'un côté, j'ai l'habitude de gifler Tom Cruise pour ses idéologies et ses missions impossibles, à regarder du moins. D'un autre côté, Christian Bégin a une barbe. Donc, je vais devoir frencher Tom Cruise, non pas parce que Bégin a une barbe, mais simplement parce que j'ai pas suffisamment vu Christian Bégin au cinéma et que, malheureusement ou heureusement, le corpus de Tom Cruise, malgré de nombreux mauvais films, est aussi composé de bons films comme Minority Report, notamment, et qui a pas de barbe. Donc, je french Tom Cruise, je gifle Christian, malgré son époustouflante performance dans Le Problème d'infiltration.
Moi, je veux souligner que tu accuses Mélina d'être superficielle parce que elle a un problème avec son nez et ses dents dans l'aliment, mais tu viens de passer une bonne minute et demie à m'expliquer que le gros problème de pourquoi tu choisis ton French, c'est sur la barbe que tu décides.
Mais c'est parce que d'habitude, French Maritue, on prenait des films, pas des acteurs. Là. C'était un peu différent. Ça.
Non, French mais c'est parfait de prendre des acteurs. La fois d'après, on prendra des actrices.
Excellent! C'est moi qui le fais le prochain, hein?
Ben, je sais pas, à chaque fois, on me demande des trucs. Bon, là, c'est compliqué. Bref. French Marie Gifle, dans mon cas, ça a été très facile. J'ai pensé en m'en venant à pied vers la station. Je marie Curieux Bégin. Parce que c'est un homme qui peut me préparer la cuisine avec un petit verre de vino. Je peux m'amener faire une ride de scooter la fin de semaine pour visiter des bergers locaux.
Oui, mais il va mettre la maison en feu puis il va la laisser s'inonder.
Seulement si notre mariage devient vraiment décevant.
Tu trouves pas qu'il est un peu control freak?
Écoute, un homme qui trippe autant sur le gospel ne peut qu'être une bonne personne. Moi, j'en reste là. Curieux Bégin pour le gospel. Je french Tom Cruise parce que je suis un fan fini d'un paquet de ses films. Oui, c'est un scientologue, une religion qui prend avantage d'un paquet de monde et qui est absolument dérangeante pour la société. Mes Missions Impossibles, mes Top Gun, mes La Momie, mes...
La Momie?
Non, c'est
sérieusement?
Pas... Non, pas vrai.
C'est pas écoutable, ça.
Non, c'est pas écoutable. Bon. Mais Eyes Wide Shut, j'ai-tu le droit de sortir ça? Un classique de Stanley Kubrick. Il est mitigé dans comment les gens le considèrent. Bref, j'adore Tom Cruise, j'adore l'acteur Tom Cruise, j'aime pas full la personne Tom Cruise, mais c'est correct, je
Mais je peux
avec
pas croire que tu vas gifler Harrison Ford.
Avec plaisir. Je pense pas que c'est un bon acteur. Je pense que c'est un acteur qui a fait des rôles iconiques, qui est vraiment typé. C'est-à-dire que c'est le blasé, le cynique, un peu. Tu sais, il est toujours un visage froid, il est toujours l'homme à femme. C'est le personnage typique de film noir qu'on a garoché dans un paquet d'autres setups. C'est-à-dire que je pense qu'il joue le même personnage dans Blade Runner l'original, qu'il joue dans Star Wars l'original, qui même jusqu'à un certain limite joue dans Indiana Jones l'original. C'est-à-dire que
moi je le trouve drôle dans Star Wars Harrison Ford, je le trouve pas drôle du tout dans Blade Runner là.
Peut-être vers la fin, mais dans le premier c'est vraiment juste un mercenaire qui est là pour le cash puis les femmes là. Non, moi je pense que il est charpentier, il aurait dû rester charpentier là, comme je... Ben non, j'exagère. Il a quand même fait des rôles intéressants, mais des trois, celui que j'aime le moins ou que j'ai le moins de plaisir à regarder au cinéma, c'est Harrison Ford. Puis ça, je vais le dire avec plaisir. Donc je gifle. Bref, en résumé, je marie Christian Bégin, j'embrasse Tom Cruise et je gifle Harrison Ford.
Eh ben, merci. C'était French Marie Gifle.
Voilà ce que nous faisons ici. Nous maintenons l'ordre. Le monde repose sur un mur de séparation entre deux classes d'êtres. Si nous disons à l'une d'elles que ce mur n'existe pas, nous récoltons la guerre.
Amenez-le-moi.
Ils savent que t'es ici.
La semaine passée sortait le film Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. C'est la suite du film Blade Runner qui date de 1982. On est tous allés voir le film à la Maison du cinéma. Mélina et moi avons terminé le film de 1982 une heure avant la représentation du nouveau. Et c'est un film extraordinaire. Il frôle les 90% sur Rotten Tomatoes au moment où je vous parle. Et malgré tout, c'est pas un film si simple que ça. Et je pense qu'il faudrait peut-être un peu expliquer l'histoire de Blade Runner avant de faire notre critique.
Dans le fond, toute la série de films Blade Runner est tirée des romans de Philip K. Dick, en particulièrement de Do Android Dreams of Electric Sheep? Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques?
C'est original comme nom, en tout cas.
Oui, définitivement. Puis on parle quand même d'un roman qui est sorti dans les années 60. Là. C'est un roman qui a déjà un certain âge et qui, à l'époque, déjà explorait l'idée de qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est que de vivre, qu'est-ce que c'est que d'avoir le libre arbitre. Particulièrement dans un univers où l'automatisation est de plus en plus importante. C'est un type qui, Philippe, l'auteur, qui faisait énormément de travail sur l'ambivalence de l'humanité, sur le glauque de l'esprit humain. Mm-hmm. Chose qu'on retrouve quand même beaucoup dans l'original Blade Runner, où est-ce que on sait jamais encore aujourd'hui si le personnage d'Harrison Ford était un réplicant ou pas. On sait toujours pas qui était complètement humain là-dedans. Il y a un paquet de personnages que c'était questionnable. Est-ce que Tyrell, le président de la corporation, était complètement humain? Est-ce que le hibou était complètement humain?
Je suis content que t'amènes le hibou.
Le hibou était iconique. 2049 ouvre 20 ans après le premier, 30 ans après le premier, où est-ce qu'il y a eu un blackout qui aurait détruit beaucoup d'informations. On suit l'agent K, qui est un réplicant d'une nouvelle génération qui est vraiment... qui est programmé différemment que ceux de l'original, donc qui est programmé pour obéir directement. Le film introduit également une sorte de réplicant. Plutôt que les Nexus 6 qu'on voyait dans l'original, on a les Nexus 8 qui ont la différence principale d'avoir une espérance de vie illimitée, contrairement au premier qui était limité à 4 ans.
Oui. Et juste pour clarifier, parce que pour ceux qui n'ont peut-être pas compris ou vu le film, les réplicants, c'est des espèces d'humanoïdes reconstitués. Est-ce qu'on peut dire que c'est des robots? Pas vraiment. C'est génétiquement recréé.
C'est des androïdes. C'est des créatures artificielles qui sont créées pour ressembler le plus possible à des humains. Donc, ça saigne.
Mais ils saignent, c'est ça, exactement. OK, okay. Parfait.
Donc, bref, on suit Kay, joué par Ryan Gosling, qui essaie de... qui fait son travail, dans le fond, puis qui se ramasse avec des mémoires bizarres et qui, au travers de la recherche de l'origine de ces mémoires-là, tombe sur une conspiration androïde pour revenir à un état où est-ce qu'ils ont plus de pouvoir, entre autres au travers de la fertilité. Oui. Donc on vient tout sur la question de est-ce que d'être humain c'est d'avoir des enfants. Bref, Harrison Ford sort de sa retraite pour venir expliquer les anciens rôles, pour reprendre l'ancien rôle qui était là, pour expliquer qu'est-ce qu'il a fait entre les deux. Et là, je révélerai pas le major
évidemment,
truc du film, mais tout ça tourne autour de Rachel, qui était la secrétaire qui a eu une relation plutôt intéressante avec Harrison Ford à l'époque.
Dans le premier film. Et oui, mais c'est ça. Mais il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Je sais pas, mais note, on a vu le film ensemble. Il y a l'élément de la conspiration. Il y a l'élément du questionnement existentiel. Il y a toute la dimension de reproduction. Moi, je sais que ça n'a pas été développé plus que ça dans le film, mais l'idée de quand est-ce que tu considères que c'est un être vivant, est-ce que c'est quand il peut se reproduire?
Puis non seulement ça, mais c'est que cette question-là est encore plus poignante quand tu considères qu'encore à ce jour, on ignore si Harrison Ford est un réplicant. Donc, c'est la question de est-ce que c'était une reproduction humain-androïde ou androïde-androïde qui rend ça encore plus intéressant. Faut aussi considérer, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, ça va être rough, là, on va probablement divulgâcher ben des affaires dans le film par inadvertance, mais c'est un très long poème, c'est une ode à la beauté, parce qu'il y a énormément de scènes qui sont de longs plans, qui font juste montrer... Ce film-là était magnifique.
C'est très contemplatif, oui, oui.
Le film-là était magnifique. Moi, je sors mes cartes tout de suite, j'ai adoré le film. Bien que j'aurais aimé mieux le voir à la maison, confortable, parce que c'est long, Calvin, à 2h45. Mais c'est ça, c'était très joli.
Oui, oui, vraiment. Puis je trouvais que ce qui était bien aussi par rapport au premier film, c'était moins... le premier film, il y avait toujours de la pluie, on avait l'impression d'être un peu claustrophobique dans l'ambiance. Là, il y a des moments où on a des grands espaces de désert, on a quand ils se promènent en vaisseau, on dirait qu'on comprend mieux la géographie de l'environnement dans lequel ça se passe. Je pense que ça se passe à Los Angeles du futur, c'est ça?
Oui.
Et ça, c'est bien. Je trouvais que ça manquait parce que, bon, évidemment, on retrouve le Chinatown, Chinatown où ils se brassent toutes les affaires.
Qui est maintenant légendaire, là, je veux dire, qui a été repris dans tellement d'autres productions puis qui a tellement inspiré de choses.
Même Star Wars, à la limite.
Plus tôt cet été, on avait une reprise live de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell également, qui était beaucoup inspiré. On a Minority Report, qui est un autre film série de Philip K. Dick. Beaucoup de ces films-là, ben, beaucoup de jeux vidéo aussi sont inspirés de l'univers de Philip K. Dick et particulièrement de Blade Runner. L'espèce de Chinatown est rentré dans l'imagerie populaire. Mais je suis curieux, Mélina, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du film?
Premièrement, je lève mon chapeau vraiment à Denis Villeneuve. Là, pour avoir vu le premier, je pense qu'il a vraiment réussi à aller recréer l'ambiance. Puis aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que le premier, quand il est sorti, il n'a pas du tout été un succès. Il y a eu 7 montages, puis c'est le dernier montage qui a vraiment connu un succès commercial. Donc, même je pense qu'il disait le premier, quand il est sorti, le premier montage, le cast a vu le film, puis ils l'ont pas compris. Tu comprends?
Non, l'équipe technique et je sais pas quoi. Ouais.
Ils ont pas compris le film, puis ils ont refait le film, mais ils ont refait le montage, puis en refaisant le montage, ils ont réussi vraiment à rendre ça vraiment plus intéressant. Alors que là, Denis Villeneuve, du premier coup, nous sort vraiment un film qui est super intéressant et également.
Qui est aussi en train de planter au box-office.
Aussi. Mais
ça, c'est une autre histoire.
Non, mais.
Mais ça veut rien dire, hein? Ça peut évoluer. Là.
Oui, mais c'est très drôle parce que 31 millions alors qu'un film qui a coûté 150 millions.
Ouais, oui, mais ouais. Il espère que ça va monter dans les prochaines semaines. C'est peut-être gardons, un film qui va.
Nous gardons les doigts croisés pour M. Villeneuve.
Oui, clairement, voilà. Parce que c'est pas un film simple non plus. C'est très compliqué. C'est lourd aussi en même temps. Mais je veux dire, Ryan Gosling est excellent dans ce rôle-là. Je veux dire, je sais pas vous, moi j'ai vraiment aimé. Là.
Ouais, moi aussi.
La seule chose, mon point négatif que j'aurais à dire, c'est toute l'espèce d'arc autour de l'assistante artificielle de Ryan Gosling.
Sérieux, moi j'ai adoré ça.
Ah oui, moi
ça.
C'est une des meilleures parties du film, je trouve.
Dans le fond, je comprenais pas l'idée de créer des androïdes qui ont besoin de ce genre de stimulation-là, en plus de trouver que ça rajoute une complexité, puis ça rajoute une couche de personnage ou une couche de questionnement qui est déjà présente dans le film puis qui devient trop évident sur qu'est-ce que c'est que d'être humain. Parce que je pense que le film aurait déjà pu établir les thèmes de l'humanité sans avoir à toucher sur ça. Fait que je trouve que ça revient rajouter une lourdeur qui a pas d'affaire.
Moi, ce que ça m'a donné comme impression, c'est qu'on sortait vraiment du binaire de 1 ou 0 puis qu'on allait vraiment justement dans plusieurs couches jusqu'à... Peux-tu avoir plusieurs couches
C'est l'émotion, là. C'était l'ouverture à vivre des émotions, carrément, des relations amoureuses avec une intelligence artificielle. Simplement un corps qui prend l'hologramme pour compenser le manque. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement ambitieux, extrêmement réussi.
Je trouvais ça très joli, mais je trouve qu'au niveau de l'histoire, c'était vraiment quelque chose de trop qu'il n'y avait pas d'affaire, là. Moi, je pense que c'est un film qui est très ambitieux, qui est très joli, très magnifique, mais qui, en essayant d'aller rechercher la profondeur du premier, réussit pas complètement. Je pense que le premier élucide ses thèmes et travaille ses thèmes vraiment mieux que le deuxième. Le deuxième réussit mieux au niveau de l'esthétique, à mon sens.
Le premier, oui, il a réussi vraiment, comme tu dis, à bien élaborer ses thèmes après 7 montages, après 7...
Il y a une histoire pour ça aussi, là. C'est que la maison de production a refusé le premier montage de Ridley Scott, le directeur original. Puis la deuxième a été faite à partir des notes de Ridley Scott par un éditeur extérieur. Ce n'est que lors de la Final Cut, qui est sorti en 2007, c'est-à-dire plus de 20 ans après la sortie du film, que finalement, le directeur, qui avait la vision artistique au départ, a réussi à faire la version qu'il voulait vraiment. Fait que oui,
mais il y a un changement dans les thèmes. Ils n'ont pas mis l'accent sur les mêmes thèmes au fil des différents montages. Ils ont changé un peu le focus.
Mais si tu regardes The Final Cut, puis tu comprends que c'est la version qui aurait dû être la version originale, c'est là que tu vois vraiment... Tu sais, on peut pas accuser Ridley Scott d'avoir manqué sa shot parce que son édition a été retravaillée dans son dos après ça. C'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a voulu que ce soit compliqué.
C'est ça que je veux dire, là, c'est plus que genre dans le sens que c'est tellement complexe comme film, qu'il y a tellement de thèmes abordés que c'est dur justement, je pense, de cerner puis d'aller vraiment où tu veux aller avec ce film-là. Puis je pense que c'est un peu la même chose qui se passe dans le deuxième.
Il y a beaucoup d'abstraits, de sous-entendus, de concepts un peu
c'est très
profond,
développé aussi,
c'est
là.
Ça. Puis les liens sont pas toujours très clairs. Puis je pense que c'est correct que ça soit pas trop non plus, sinon ça serait probablement un film comme un autre.
C'est que c'est tiré des œuvres de Philip K. Dick. Je suis
Je suis
un fan fini. Là. J'ai lu presque sa bibliographie au complet, les histoires courtes y comprises. C'est un auteur qui travaille énormément sur l'idée de l'ambivalence, sur l'idée qu'à la fin d'une œuvre, le lecteur ou ici le spectateur n'a aucune idée de la réponse finale.
Je pense que propre réponse.
C'est ça. Je pense que le premier a vraiment mieux réussi cet aspect-là, parce que le deuxième finit. On sait pas tout, on sait pas tous les personnages, on sait pas, mais on sait les éléments qui sont finis sont bien finis. je le sais, c'est quoi les personnages qui sont morts, je sais c'est quoi les personnages qui restent en vie, je sais les personnages qui veulent qu'on sache la fin de l'histoire, on les connaît. Fait que je pense que l'ambivalence, il y a des aspects, mais vraiment pas autant, puis vraiment pas de manière aussi bien réussie. Je pense que c'est très joli, mais je pense que le premier était meilleur en termes d'idées philosophiques et de travail au niveau des thèmes qui ont été faits.
Et tu donnerais combien comme note au film de Denis Villeneuve, Louis?
9.5 si j'étais assis dans mon divan, 7.8 si j'étais assis au cinéma. Je donne 9.5 à 2049 pour l'esthétique. Je pense que l'esthétique de 2049 est vraiment mieux réussie. Je pense que le jeu d'acteur est vraiment mieux travaillé. On voit que ça a été refait au goût du jour. Denis Villeneuve est mon héros. Mais je pense qu'au niveau des... On sent que Denis Villeneuve aurait voulu faire un film qui était plus ambitieux que ça au niveau de l'esthétique, mais qui a été contraint d'introduire des thèmes philosophiques qui n'étaient pas nécessairement de sa volonté. Je pense que c'est ça.
OK. Mélina, de ton côté, tu donnerais combien au film de Denis Villeneuve?
Un solide 8.5.
Parfait. Et qu'est-ce que tu donnerais par curiosité au film de
1982? Oh, tu vois, moi, je suis pas d'accord. J'irais plus vers un 7.5.
OK.
Ouais, j'ai moins trippé sur le premier.
Parfait. Moi, je donnerais aisément un 9 sur 10 à Blade Runner 2049. Et je donnerais probablement un 8.5 au Blade Runner de 1982, qui est du moins extrêmement bon aussi. Il est un petit peu mal vieilli, mais il y a des incohérences dans le premier film, personnellement, qui me dérangent un petit peu. Donc, Blade Runner 2049, la suite de Blade Runner de 1982, très recommandé d'aller le voir au cinéma. Et c'est disponible pour encore, j'imagine, un certain nombre de semaines, voire de mois, vu l'ampleur du phénomène. Mais c'est un bon film, allez le voir! À venir en Blu-ray, DVD, pas grand-chose pour cette semaine. Louis, après Trois filles et un jeans, Sex and the City et les nombreuses histoires de peur, une nouvelle comédie américaine sort en DVD, Girls Trip, avec des acteurs et un réalisateur qui n'ont fait que des films que je ne regarde pas. L'histoire. Quatre jeunes femmes, amies d'adolescence, se retrouvent après 5 ans et décident de faire un trip en Nouvelle-Orléans pour aller voir un show de musique. Que pensez-vous qui va se passer? Des folies.
Je suis excité.
Pour une raison qui m'échappe, 89 sur Rotten Tomatoes, ce film, ça m'échappe. Sinon, dans un tout autre genre, un documentaire québécois sur l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal, Le Dernier Souffle, c'est une mise en abîme et ça se passe dans les 2 dernières années avant que l'hôpital soit remplacé par le CHUM. Je suis sans mots. Mélina, il n'y a pas que des films, il y a aussi des séries.
Oui, mais moi, de mon côté, sur Netflix, alors le 11 octobre, il y a Goosebumps qui sort, qui est une adaptation au cinéma de la très connue série Chair de poule qu'on écoutait tous à Canal Famille quand on était jeunes.
Qui était elle-même une adaptation d'une série de romans des années 90 que j'ai également adoré quand j'étais très jeune.
On rejoint un peu tout ce thème-là, on va sur les romans, en tout cas, ça a l'air quand même bien. On a ensuite le retour de Nanny McPhee, donc la suite de Nanny McPhee, donc la nounou avec des pouvoirs magiques, film avec Emma Thompson qui est sorti ce jeudi le 12 sur Netflix. Et très finalement, hier, vendredi le 13, on a Mindhunter qui est sorti sur Netflix.
Oui, il y a une belle série.
Oui, une série originale de Netflix, donc généralement, on s'entend à quelque chose de très bon. Alors, c'est un agent du FBI qui développe des techniques de profilage tout en poursuivant des tueurs en série et des violeurs.
Et j'ai vu la bande-annonce, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Ambiance probablement années 80-70, mm-hmm. Je suis pas sûr. Ouais, ça a l'air bien.
Si vous aimez le genre, ça peut être très bon.
Ouais. C'est tout?
C'est tout.
Merci Louis, merci Mélina. Le temps passe vite quand on a commencé l'émission, t'étais haute de même. Et c'est déjà fini pour Cinébrunch. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter ou nous réécouter tant que vous voulez en balado-diffusion sur notre site internet cinébrunch.com. Vous aurez aussi la chance de voir les bandes-annonces des films dont on a discuté aujourd'hui.
Pour ceux et celles qui nous écoutent par podcast, allez mettre 5 étoiles sur iTunes. Merci!
Sinon, pour les puristes, on se retrouve dans exactement 7 jours, samedi 11h. Pas trop tard, parce que le samedi soir, j'ai des popcorn qui poussent. Bye bye tout le monde!